Vous écoutez On lit pour vous.
Le duel culturel des nations au Québec. Un texte d'Emmanuel Lapierre, paru le 9 mars 2024 dans Le Devoir. La chronique de Jean-François Lisée, intitulée « Identité anti-québécoise », ayant fait réagir, j'aimerais préciser une petite chose. Le mépris des « Kebs », bien réel dans les écoles secondaires de la grande région de Montréal, ne tire pas sa source des communautés allophones. Pas la moindre goutte. Il existe à cause d'un duel. Le duel culturel des nations, nouveau concept en sciences humaines que j'ai forgé. En voici une très, très brève esquisse. Partout sur Terre, des nations dominantes tentent d'assimiler des nations dominées qui leur résistent en retour. Sauf exception, le désir d'assimilation d'une nation dominante ne s'exprime jamais clairement. Elle utilise le discours pour persuader la nation dominée qu'elle doit accepter d'elle-même son assimilation parce que sa culture serait inférieure, entre autres. Dans notre cas de figure, de nombreux jeunes allophones rejettent la culture québécoise en prétextant qu'elle serait moins intéressante que la leur, et même que toutes les autres. Ce refrain, je le connais bien. Certains de mes amis, certains membres de mon entourage et mon propre père, un Péruvien, le chantaient il y a 40 ans, avant les réseaux sociaux, Netflix et le reste donc. Le duel se déroule aussi entre les nations à l'échelle mondiale, mais nous n'avons pas la place pour en discuter ici. Ce n'est pas tout. Les jeunes Québécois, et les Québécois en général, dénigrent de plus en plus leur langue, leur musique, leurs films, leur culture. Aucune chanson québécoise en français ne figure au palmarès des 100 chansons les plus écoutées sur les plateformes musicales au Québec. Rappelez-vous, on a su ça l'été dernier. Plusieurs allophones et francophones chantent à l'unisson l'infériorité culturelle du Québec. D'où ce refrain provient-il, croyez-vous? De notre nation dominante à tous, le Canada. Nous baignons en permanence dans une atmosphère aliénante. Nous intériorisons le message selon lequel la nation québécoise ne peut pas exister par elle-même, penser par elle-même, être libre. Mais le duel culturel des nations n'est pas une fatalité. La nation dominée résiste et peut même contre-attaquer pour se libérer de son oppresseur. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais dans notre cas, il suffirait d'y mettre l'énergie et les ressources nécessaires. Notre jeunesse, d'où qu'elle provienne, est ouverte. C'est le propre de la jeunesse. Qu'on la mette en contact avec des œuvres culturelles québécoises. Qu'on finance la culture pour vrai. Qu'on la valorise pour vrai. Ça presse. Que l'on réforme aussi encore les cours d'histoire au secondaire. Relent de conquête. Je peux vous raconter une anecdote? Il y a environ 3 ans, je remplaçais dans un cours d'histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire. Nous passions quelques minutes sur la crise d'octobre, montre en main. Les manuels scolaires ne parlent d'ailleurs jamais bien longtemps des moments croustillants. Ça pourrait en réveiller quelques-uns. À un moment donné, un jeune fronce les sourcils en faisant sa lecture et lève la main. « Monsieur, pourquoi notre livre ne parle-t-il pas de la responsabilité du Canada dans la crise d'octobre? » Il ne devait pas avoir plus de 16 ans, ce garçon. Je pensais alors à la gigantesque armada de jeunes qui sont passés par notre système scolaire sans avoir l'occasion de prendre possession de leur histoire, sans jamais connaître le point de vue, j'oserais dire, local. Nous ne nous racontons pas notre propre histoire. Toujours passé par le Canada. Toujours le même message. Le Québec ne peut pas exister par lui-même. Alors voilà. Les jeunes allophones dont on parle ne méprise pas les Québécois de longues racines. Ils ont intériorisé la même chose qu'eux. Un message qui vient de loin, très loin. Les conquérants britanniques croyaient que, dans leur langue et leur culture, résidait le secret de la civilisation. Dans « La guerre de la conquête », son grand classique, Guy Frégaud rapporte à un moment donné des dépêches de journaux de 1755-1760 dans lesquelles des Anglais se félicitent de leurs droits individuels, de leur liberté de presse, toute relative à l'époque, mais c'est un autre sujet, et raillent en même temps la France en la dépeignant comme un endroit digne du Moyen Âge. Après la conquête, cette propagande ne s'est tout simplement pas arrêtée. C'était le duel culturel des nations au Québec. Un texte d'Emmanuel Lapierre, paru le 9 mars 2024 dans Le Devoir.
Sensibiliser les futurs profs à l'art. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 4 avril 2024 dans Québec Science. C'est connu, l'art a de multiples bienfaits. C'est pourquoi deux projets de recherche mis sur la formation des personnes qui étudient en enseignement pour donner la piqûre de la culture aux plus jeunes. Le corps professoral est bien placé pour allumer des étincelles culturelles chez les élèves, puisqu'il est à même d'intégrer différentes œuvres au sein du cursus scolaire. Par exemple, une pièce de théâtre peut transmettre du savoir sur l'histoire et une œuvre picturale peut évoquer des notions de géométrie. Mais pour transmettre une passion, il faut d'abord la développer. C'est dans cette optique que le projet de recherche « Passeur culturel » de l'UQO, lancé l'automne dernier à l'Université du Québec en Outaouais, UQO, offre des sorties culturelles gratuites aux personnes inscrites au programme d'études en éducation. On a l'ambition d'élargir leurs habitudes culturelles, explique la responsable de l'initiative, Judith Emery-Bruno, professeure au département des sciences de l'éducation. Je prends l'exemple de la danse contemporaine. Ce n'est peut-être pas ce qui attire le plus nos étudiants. En revanche, si on leur offre des billets de spectacle, peut-être que ça peut piquer leur curiosité. Le projet Médiateur culturel à l'UQTR de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, s'est donné la même mission. On forme la relève, se réjouit la professeure au département des sciences de l'éducation, Marie-Claude Larouche, qui pilote depuis 2020 cette recherche avec ses collègues Marie-Hélène Forgette, Mélodie Simard-Houd et Anne-Sophie Bally. Afin de documenter en temps réel leur cheminement, les personnes qui y participent ont accès à une application mobile nommée E-Compagnon culturel. Des retombées positives. Ces deux initiatives s'inspirent du projet Passeur culturel, lancé par l'ex-professeur de l'Université de Sherbrooke, Martin Lépine. Le rapport d'activité de son expérience, qui s'est échelonné de 2017 à 2020, fait part de nombreuses retombées positives. Entre autres, 92,6% des participants et participantes y ont affirmé avoir l'intention de fréquenter davantage les salles de spectacle après leurs études. En attendant les résultats des recherches de l'UQTR et de l'UQO, qui s'échelonneront respectivement jusqu'en 2025 et 2027, leur responsable assure qu'elle génère déjà un bel enthousiasme auprès des futurs profs. Il y a un intérêt, il y a des coups de cœur. C'est nettement positif, soutient Marie-Claude Larouche, qui a elle-même œuvré dans le milieu culturel, notamment au musée McCord à Montréal, avant de faire le saut en enseignement. Selon elle, cette transmission entre le corps enseignant et les élèves est essentielle à la survie de la culture francophone au Québec. En valorisant la culture sur les bancs d'école, les élèves du primaire sont également encouragés à développer leur propre expression artistique, mentionne-t-elle. Après tout, Les arts sont un miroir de la société. La culture, c'est la vie, s'enthousiasme Judith Emery Bruno. Ça nous amène à réfléchir à des enjeux sociaux et sensibles qui sont porteurs de valeurs et de réflexions. C'était « Sensibiliser les futurs profs à l'art », un texte de Marie-Lise Rousseau paru le 4 avril 2024 dans Québec Science.
Le blues d'un idéaliste noir, un texte de Sébastien Tanguay, paru le 20 juillet 2024 dans Le Devoir. Premier militant de Black Lives Matter, BLM, à se hisser aux commandes d'une ville américaine, le maire Khalid Kamo a pris en 2021 les rênes de South Fulton, en banlieue d'Atlanta, pétri d'idéalisme et d'espoir socialiste pour la ville la plus afro-américaine du pays. 3 ans et plusieurs désillusions plus tard, l'activiste qui rêvait de changer son pays songe aujourd'hui à le quitter, dépité par le parfum de déclin qui entoure, selon lui, l'Empire américain. C'est dans un secteur cossu de South Fulton, traversé par une toponymie qui évoque le French prestige comme Versailles Drive ou Montclair Estates, que Khalid Kamo reçoit Le Devoir. La maison de briques qui nous accueille vaut certainement quelques millions. Elle appartient à un ami, assure Khalid Kamo, en nous recevant sans faste, veste à capuche sur le dos malgré la chaleur du jour jumelée à celle du fourneau en action. Cet écrin d'opulence tranche avec l'engagement socialiste de ce maire hors norme de 48 ans qui explique employer la double minuscule dans son nom pour exprimer la primauté de la communauté sur l'individu en respect avec la tradition africaine Yoruba. Une fois au pouvoir, un de ses premiers gestes fut d'élire domicile dans les Camelot Condominium, un complexe d'habitation de South Fulton qui n'a de royal que le nom. Rongé par le crime, la drogue et la misère, le Camelot croupissait dans l'indifférence des administrations précédentes quand le nouveau maire a décidé d'y attirer les projecteurs en devenant le voisin de sa population déshéritée. L'aventure aura duré 10 mois. « Ce ne sont pas les meurtres ni les rats qui m'ont fait partir », assure Khalid Kamo. « C'est la moisissure qui commençait à m'affecter de plus en plus les poumons. Au moins 15 homicides ont eu lieu depuis 2019 dans le complexe, selon une recension des journaux locaux. La mise en lumière du Camelot par le maire n'a pas totalement dissipé sa part d'ombre. Les bouteilles d'alcool vides et les seringues usagées jonchaient l'air de jeu lors du passage du devoir à la fin mars. Le cadavre d'un chat pourrissait aussi dans le stationnement. Black Lives Matter au pouvoir. Issu de l'activisme le plus militant et engagé, Khalid Kamo a pris le pouvoir en 2021, résolu à amener sa ville natale à gauche toute. La plateforme qui a fait élire cette émule de Bernie Sanders promettait des logements plus abordables, des salaires plus élevés, des semaines de travail allégées et une mairie ouvertement dévouée à servir de levier pour émanciper sa population afro-américaine. S'il y avait un endroit où une plateforme inspirée par les idéaux de Black Lives Matter avait une chance de prendre racine, c'était ici, explique Khalid Kamo, à propos de South Fulton, une ville de 112 000 personnes majoritairement afro-américaines. Paris gagné, porté par son slogan « Black on purpose », intentionnellement noir, il a remporté la mairie avec près de 60 % des suffrages à l'issue d'une élection où moins de 14 % de l'électorat a visité les urnes. Cette victoire, due à 8 % de la population en âge de voter, n'a pas refroidi les ardeurs ni les ambitions de celui qui a fait le saut en politique pour prendre à bras-le-corps les changements qu'il réclamait depuis la rue dans son ancienne vie. Avant de devenir conseiller, puis maire, Khalid Kamo manifestait contre les politiciens dont il endosse aujourd'hui l'habit, protestant jusqu'à l'hôtel de ville d'Atlanta, pour dénoncer la brutalité policière et le recul des droits. Petite révolution socialiste à South Fulton. son arrivée au pouvoir a marqué le début d'une petite révolution à South Fulton. Les salariés de la ville ont vu leur rémunération de base bondir à 15 $, puis à 20 $ l'heure, soit près de 4 fois le salaire horaire minimum de 5,15 $ en vigueur en Géorgie. South Fulton a aussi multiplié l'achat de terres convoitées par des promoteurs privés pour constituer des parcs accessibles à la communauté. Un développeur voulait construire des maisons de ville bon marché qui menaçaient de faire baisser la valeur des propriétés environnantes. « Nous avons plutôt racheté les terrains qu'il lorgnait, illustre le maire, pour bâtir un parc qui va augmenter la valeur des alentours. C'est exactement ça, le socialisme, amener une communauté à mettre ses ressources en commun pour améliorer sa qualité de vie. Une façon, aussi, de répondre au précepte de libération de la terre, cher à Malcolm X, un maître à penser influent dans le parcours du maire, qui militait pour la constitution d'un territoire par et pour les Noirs à l'intérieur des États-Unis. Le maire veut aussi profiter de la proximité de l'aéroport d'Atlanta, le plus achalandé du monde, pour que South Fulton devienne le fer de lance d'un marché allant de Londres jusqu'au Cap. Nous voulons établir un commerce triangulaire à l'envers pour faire circuler des dollars et des produits parmi la diaspora noire disséminée en Europe, en Afrique et en Amérique, explique Khalid Camo. Une forme de revanche économique sur l'histoire, insiste-t-il, là où se trafiquaient des esclaves il y a quelques siècles. Vous écoutez Le blues d'un idéaliste noir, un texte de Sébastien Tanguay, paru le 20 juillet 2024 dans Le Devoir. Un maire menotte au point. 3 ans de pouvoir et quelques démêlés judiciaires ont cependant érodé l'idéalisme du maire. 6 des 7 conseillers municipaux ont milité contre sa victoire au dernier scrutin et ils se battent, depuis, bec et ongles pour bloquer nos réformes, affirme Khalid Camo, au point d'entamer une démarche judiciaire pour l'évincer de la mairie. Le maire n'a jamais compris qu'il y a une différence entre l'activisme et la gouvernance, dit la conseillère Natasha Williams-Brown. Il perçoit son rôle d'élu comme un véhicule pour promouvoir son programme et il se moque de la démocratie municipale. Le résultat, c'est qu'il emploie des méthodes autoritaires et qu'il n'a rien fait, strictement rien, pour la ville. Le point de rupture entre le maire et le conseil a eu lieu en juillet 2022. Le maire, accuse Natasha Williams-Brown, avait rallié sa base à une séance particulièrement houleuse où la police a dû intervenir. Notre sécurité physique était compromise. Nous avons alors compris qu'il était impossible de négocier avec lui. Les manchettes montrant Khalid Camo menotté au point en juillet 2023 n'ont rien fait pour assainir le climat à l'hôtel de ville. Le maire fait face à une accusation criminelle depuis une entrée par effraction commise il y a 1 an dans une propriété privée de South Fulton. Dans l'attente de son procès, il clame son innocence et prétend que la maison lui paraissait abandonnée. L'obstruction systématique du conseil, qu'il croit phagocyté par des gens qui tirent leur richesse de leur proximité avec les cercles de pouvoir blancs d'Atlanta, le désabuse de la capacité du politique de changer la société. Ça a été une expérience très frustrante d'être maire, déplore-t-il. Je me cogne constamment la tête sur le statu quo pour 40 000 $ par année, un salaire à peine suffisant pour me payer un appartement, encore moins pour acheter une maison. Au royaume du capitalisme, le pouvoir de l'argent, conclut-il, mène encore le monde. Je ne sais pas si je vais me représenter. Avec l'influence que la richesse a sur la politique dans ce pays, j'aurai peut-être un peu plus grand impact comme millionnaire que comme maire. Retour à l'ère Jim Crow. Les atteintes au droit à l'avortement, à l'accessibilité du vote et à la discrimination positive dans les universités, décidées par une cour suprême américaine qui penche à droite, le découragent quant aux espoirs de rédemption de son pays. Dans un bain qui se réchauffe lentement, vous finissez par bouillir vivant, illustre Khalid Camo. Aux États-Unis, il y a encore des milliers de monuments confédérés qui célèbrent une guerre menée pour garder mon peuple en esclavage. Les États s'immiscent même dans les cours d'histoire pour rendre la vérité par rapport à la guerre de sécession illégale, sous prétexte que ça polarise et que ça instille la honte chez les enfants blancs. Ils devraient pourtant avoir honte, non pas d'être blancs, mais de ce que leurs ancêtres ont fait. Il rappelle qu'il appartient à la première génération d'Afro-Américains nés avec le droit de vote, le droit de manger dans la même cafétéria que les Blancs et la reconnaissance de sa dignité humaine. Sa mère, infirmière, ne pouvait fréquenter les bibliothèques publiques. Son père comptable, né à Birmingham, en Alabama, a connu l'époque des églises noires incendiées par des réactionnaires suprémacistes. Alors que Donald Trump s'approche à nouveau des portes de la Maison-Blanche, il s'inquiète de voir son pays glisser petit à petit vers une nouvelle ère Jim Crow et croit de plus en plus fermement que la place des Noirs se trouve peut-être ailleurs qu'aux États-Unis. J'ai des amis qui ont déménagé en Afrique et leur seul regret, c'est de ne pas avoir quitté ce pays plus tôt, conclut-il. Nous l'avons bâti, et ils persistent à nous rejeter. Je me demande même, aujourd'hui, si l'Amérique vaut encore la peine qu'on se batte pour elle. » C'était « Le blues d'un idéaliste noir », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 20 juillet 2024 dans Le Devoir.
Cinq petits gestes pour prévenir les incendies à domicile, un texte commandité, paru le 6 juillet 2024, dans la presse. Au Québec, 50 incendies se déclarent chaque jour en moyenne, selon les services de sécurité incendie. Souvent provoqués par l'erreur humaine, par des gestes anodins en apparence, ces événements mènent pourtant à de bien tristes conséquences, alors que l'été bat son plein, et devrait rimer avec plaisir, soleil et vacances. Heureusement, il s'agit la plupart du temps de causes pouvant être évitées sans trop de difficultés. Voici cinq petits gestes faciles à poser pour protéger votre domicile et tout ce qui vous tient à cœur en cette saison estivale. 1. Éteindre vos mégots dans un cendrier. Saviez-vous qu'une cigarette peut générer une première flamme jusqu'à 5 heures après avoir été écrasé? Il faut savoir que la quasi-totalité de ce qu'on trouve dans les terreaux, soit la tourbe, la mousse et les engrais chimiques, est inflammable. Il suffit d'un petit coup de vent mal dirigé pour qu'une catastrophe se déclenche en un rien de temps, sur la terrasse, sous le balcon ou même dans le logis. Pour prévenir ce risque, utilisez un cendrier adéquat avec couvercle. Sur le coup, on pense qu'il n'y a pas de problème, car on ne voit pas de fumée et on laisse aller les choses. Mais un incendie peut quand même se déclarer, explique Stephanie Armstrong, conseillère principale à la prévention chez Intact. 2. Utilisez les appareils à l'éthanol adéquatement. Vous êtes propriétaire d'un petit foyer extérieur à l'éthanol? Attention, ce type d'appareil doit absolument posséder une certification qui atteste de sa conformité à la norme canadienne. Il doit aussi être utilisé uniquement avec le type d'éthanol indiqué par le fabricant. Pour une utilisation sécuritaire, il est recommandé de ne pas entreposer plus de 5 litres d'éthanol et de ne pas stocker ce dernier près d'une source de chaleur, car il dégage des vapeurs inflammables à la température ambiante. De plus, si vous devez déplacer votre foyer, assurez-vous qu'il est complètement éteint et vidé de combustible. 3. Gardez une distance sécuritaire entre le barbecue et le domicile. Bien sûr, en milieu urbain, les espaces extérieurs sont plus restreints qu'en banlieue ou en région. Cependant, il est essentiel de ne pas installer le barbecue directement contre un mur de la maison ou de l'appartement. Pourquoi? c'est que si un incendie se déclare, sa propagation vers le domicile sera alors ralentie. Stephanie Armstrong insiste. Oui, le barbecue peut être sur la terrasse, mais idéalement, pas dos à dos avec la résidence. La règle d'or à garder en tête avec cet appareil de cuisson, vérifier que la bonbonne est bien fermée après chaque utilisation. 4. Respecter l'ampérage des prises électriques et des barres d'alimentation. Quelque 39 % des bâtiments résidentiels ayant été endommagés par un incendie avaient l'électricité comme énergie principale de la source de chaleur. Négligence ou défaillance? La spécialiste en prévention est sans équivoque. Les incendies provoqués par une rallonge sont plus souvent causés par une surcharge due à la négligence ou à une mauvaise utilisation plutôt que par une défaillance. Brancher une barre d'alimentation dans une rallonge, ce n'est jamais une bonne idée. Pour alimenter votre balcon ou votre terrasse en électricité, il convient d'utiliser une rallonge spécialement fabriquée pour l'extérieur avec une gaine plus résistante aux intempéries et un ampérage approprié. 5. Respecter la réglementation municipale concernant les feux extérieurs. Certaines municipalités interdisent carrément les feux extérieurs, alors que d'autres imposent des règles strictes par rapport à l'emplacement du foyer. Avant d'allumer un feu dans la cour, il importe que vous vous posiez les bonnes questions. Un avis temporaire d'interdiction de feu est-il en vigueur? Votre foyer est-il suffisamment éloigné des bâtiments? Y a-t-il trop de vent? En règle générale, le foyer doit être installé à au moins 3 mètres, 10 pieds, de tout combustible ou de tout bâtiment, y compris le cabanon ou le garage. Il doit également être muni d'un pare-étincelle pour la cheminée et d'un autre pour l'âtre. Les municipalités ne viennent pas nécessairement inspecter si le foyer est convenablement installé dans chaque cour. C'est à chacune et chacun de faire ses devoirs et de respecter la réglementation en vigueur, ajoute la conseillère principale à la prévention. Rappel : les incendies à domicile ne représentent qu'un faible pourcentage des réclamations aux assureurs. Cependant, c'est le type qui engendre certaines des pertes les plus importantes. C'était 5 petits gestes pour prévenir les incendies à domicile, un texte commandité paru le 6 juillet 2024 dans la presse.